Émission d'En jase sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission, votre émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Donc, on suit le point de Max, de Max Larouche, de 10h à midi. On précède le retour de Gravel. Ça va être Denis Véro et Max aujourd'hui. Audrey revient demain du côté de Marceau. Il va revenir le matin à compter du 12 janvier. C'est notre programmation. 418-971-1021 pour communiquer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, justement, concernant notre émission et concernant les sujets d'actualité qu'on va parler. D'ailleurs, dans quelques instants, on va parler avec Victor Henriquez pour le caucus. Le caucus Henriquez, normalement avec Antonine Iacarini, mais Victor fait un travail exceptionnel avec nous en remplacement d'Antonine. Pascal CV, ça va toujours bien?
Ça va toujours bien. Toi et moi, on s'affaire dans notre pause entre deux émissions d'essayer de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité.
Et oui, puis ça bouge beaucoup aujourd'hui, honnêtement. Puis pas juste sur la scène internationale comme hier. Mm. Ça bouge beaucoup localement également. Donc, si tu le permets, on va prendre nos bonnes habitudes et tu vas nous résumer les principales nouvelles avant qu'on passe à notre ami Victor.
Oui, absolument. J'ai eu même de la misère à choisir. Alors, si tu me permets, je vais y aller en manchette.
Parce qu'il y a plusieurs choses
là-dedans. Bon, officiellement, véhicule retrouvé incendie dans le secteur de Val-Bélair. C'est à 9h35 ce matin où les pompiers, les policiers de la ville de Québec ont été invités à se rendre près d'une piste de motoneige. C'était près de la route de l'aéroport dans le secteur de Val-Bélair parce qu'il y avait une camionnette qui était incendiée. Et là, il y avait une dizaine de pompiers qui se sont déplacés pour s'assurer que ça se fasse très bien, que ce soit complété comme extinction. Par contre, rendu sur place, on a tous les motifs de croire que l'incendie aurait été de nature criminelle. Et là, c'est pourquoi on a une enquête qui est en cours. Maître Chien aussi qui a effectué des recherches, si vous vous demandez ce qui se passait dans le secteur. Il n'y a pas de suspect qui a été arrêté pour le moment. L'enquête se poursuit. On a de la nouveauté aussi dans le dossier le premier meurtre de l'année à Québec. C'est la victime de l'incendie dans Saint-Sauveur. En fait, maintenant, on est capable de dire officiellement que c'est un assassinat. Un homme de 42 ans qui a été retrouvé mort dans un incendie à Québec. Ça a été samedi dernier où cette victime-là a été retrouvée. Premier meurtre, comme je vous disais, de l'année ici dans la vieille capitale. Et c'est par l'autopsie qu'on a permis de voir que l'homme a été victime d'un homicide. Donc, incendie aussi de nature criminelle. Là, ça en fait plusieurs dans un espace assez rapproché, cette fois-ci mortel. Je vous rappelle que le brasier, ça s'est déclenché un peu après 18h30. C'était dans un logement du deuxième étage d'un immeuble sur la rue Saint-Mathias, donc dans le secteur Saint-Sauveur. Et Ahmed Yassir Ismaili Alaoui, c'est un homme d'origine marocaine de 42 ans qui a été retrouvé décédé sur le plancher de sa chambre. On a tenté les manœuvres de réanimation, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Alors, tragédie.
Alors, somme toute, on a essayé de camoufler l'homicide avec cet incendie-là.
Avec l'incendie. C'est ce que tout porte à croire pour des informations supplémentaires. On est toujours en attente, mais bon, ça ne serait pas lié au crime organisé. D'après le SPVQ.
Donc, ça veut dire que ça serait... on recherche toujours le suspect, c'est ce que je comprends, ou on l'a arrêté?
Dans ce cas-là, on est toujours à la recherche du suspect. On demande même à la police d'obtenir des... d'obtenir des informations. Je m'excuse parce que là, ça fait deux nouvelles.
Hey, pas de trouble. Puis là, c'est moi aussi qui t'abonnesse d'autres choses en même temps.
Il n'y a pas de problème. Et je t'ai rendu un petit peu plus loin parce que je veux aussi te parler d'un suspect. Un suspect important du vol de données chez Desjardins.
Ouais, retrouvé en Espagne, c'est ça que j'ai vu rapidement.
À l'autre bout du monde. Et on a annoncé ça aujourd'hui, il y a 20 minutes exactement. C'est la Sûreté du Québec qui a annoncé le tout, en fait, par les autorités espagnoles de Juan Pablo Serrano. Il était recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur les crimes financiers et la cybercriminalité. Et dans le dossier qu'on appelait Portier. C'est une vaste enquête. Ça apportait sur cette fuite de données de Desjardins. Et là, on précise que le 6 novembre dernier, et ça, c'est grâce à l'opération commune là, entre les autorités espagnoles, la SQ, Interpol, on a été capable de l'arrêter. Il avait été mis sur la notice rouge. Ça, c'est pour faciliter la localisation à l'international d'un individu qui est recherché. Et il figurait parmi les fugitifs les plus recherchés au Québec. Parfois, c'est des crimes un petit peu plus sanglants. D'autres fois, c'est des grandes fraudes. Cette fois-ci, c'est une grande fraude. Alors, il est détenu en Espagne le temps que soient amorcées les procédures d'extradition. Oui, on veut son retour au Canada. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, pour répondre à plusieurs chefs d'accusation. Entre autres, autres, fraude de plus de 5 000 vol d'identité, trafic de renseignements et d'identificateurs. Et dans le communiqué de presse, là, on ajoutait du côté de la SQ que la collaboration était essentielle avec les autorités à l'international. Donc, plusieurs travaux comme ça qui sont effectués et qui mènent à l'arrestation de suspects. Je salue l'arrestation de Picturmel en 2025 aussi.
Oui, exactement. Vraiment toujours intéressant d'aller chercher ce genre de criminel à l'extérieur. Qui va revenir en premier au Québec maintenant? Est-ce que ce sera ce criminel, M. Serrano, en Espagne, le fraudeur, ou ce sera Picturmel qui est toujours en Italie? À vos prédictions, 418-971-1021.
Il y en a qui font des poules de hockey, des poules de football.
Ouais. Toi, moi, je prédis que ça va être M. Serrano parce que je pense que du côté de Picturmel, c'est à l'heure actuelle, c'est un petit peu plus complexe de le ramener dans une prison de Québec.
Et puis, je veux te parler des Européens puis des Américains parce qu'on serre les rangs derrière l'Ukraine face à la Russie. On est beaucoup du côté du Venezuela dans les dernières heures, mais il ne faut pas oublier tout cela. Et on s'est dit prêt à fournir des garanties de sécurité de façon juridique, alors on serait juridiquement contraignante à l'Ukraine, une force internationale soutenue par des moyens militaires américains une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie. C'est un projet de déclaration avec la coalition des volontaires, qu'on parle depuis quelques jours maintenant, entre autres Mark Carney est à Paris pour ça, pour parler, mais c'est les dirigeants de la quasi-totalité des pays européens, ainsi que le Canada, l'OTAN et tout ça. Deux émissaires clés de Donald Trump sur l'Ukraine qui étaient sur place, puis on a affiché front commun, front uni sur la sécurité future de l'Ukraine face à la Russie.
On va justement parler de ce sujet avec Victor Henriquez dans le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Victor Henriquez en remplacement d'Antonin Iaccarini encore une fois pour cette semaine. Victor, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous? Comment ça va?
Ça va super bien. Écoute, on est très heureux encore une fois de te parler. Je me rends compte que quand on parle avec Victor, Pascal, on est toujours dans un marathon de radio. On fait le matin et le midi.
C'est vrai. C'est notre accompagnateur.
Exactement.
On ne voit pas le temps passer. Même on manque de temps ces temps-ci pour saisir la nouvelle, tout comprendre, essayer de bien le vulgariser. On en échappe certains dossiers de faits divers à la limite parce que les yeux sont tournés vers ces dossiers-là dont on parle avec Victor.
Exactement. Et Victor, parlant de dossiers complexe, plan de paix-là, Ukraine, Russie, ça a été négocié en premier lieu avec Donald Trump, on se souvient le passage de Poutine en Alaska, et là, par la suite, il y a eu des tractations avec l'Europe, mais là, somme toute, tout le monde est revenu sur la même page, autrement dit, donc tout le monde parle d'une seule voix à l'heure actuelle.
Oui, puis ça vient de se compliquer un peu pour la Russie parce qu'il semblerait que l'Europe et les États-Unis enfin s'entendent sur une façon de gérer cette paix-là. T'en parlais récemment, Pascal, en parlant des nouvelles. Donc, on a annoncé la création, la potentielle création, s'il y a un cessez-le-feu avec la Russie, d'une force de paix, d'une force internationale de maintien de la paix qui impliquerait des garanties des Américains, notamment une participation en termes de renseignement de la part des États-Unis. Intéressant aussi, il y avait deux émissaires, parmi lesquels américains, et parmi lesquels le beau-fils de Donald Trump, Jared Kushner, qui était là. Donc, un émissaire proche de la famille de Donald Trump. Et ça amène de la crédibilité là-dessus, parce que vous savez, dans l'univers, selon Donald Trump, son beau-fils a autant d'importance que son secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'est un peu particulier. La première fois qu'on voit ça, c'est un espèce de style monarchique. Mais on va l'appeler le gendre de. C'est une représentation importante des États-Unis dans cette force de paix. Et ça nous amène à croire que, malgré la situation au Venezuela, malgré cet impérialisme américain nouveau genre, les Américains ont aussi envie de collaborer avec l'Europe dans le maintien de la paix en Ukraine. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle pour les Ukrainiens. Espérons que ça se confirme dans des tractations plus claires avec la Russie, parce que c'est ça la prochaine étape, négocier avec les Russes.
On est rendu dans l'analyse d'analyse et de sous-couche et de sous-couche, mais le fait qu'on ait eu une entente puis qu'on ait jasé en ce moment, est-ce que c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe avec le Venezuela? J'explique parce que tantôt, Donald Trump a fait une allocution à sa nation et donc au monde, parce que tout le monde écoutait, et il a dit « Je ne veux pas être catégorisé pour une seule de mes actions, soit la dernière que j'ai posée, puis perdre mes prochaines élections pour ça. » Prochaines élections qui, en passant, c'est pas supposé là, pour Donald Trump, mais bon. Il a parlé ainsi, puis on dirait qu'il faisait référence à son intervention au Venezuela. Il souhaite-tu aussi avoir l'air positif, pacifique, avec une entente comme celle-là? Peux-tu avoir lâché un coup de fil ou...
Ben, je pense que oui, ils cherchent à avoir aussi, à essayer de se garder des portes ouvertes pour avoir des alliés, hein, parce que c'est ça qui est important aussi. Puis quand ils parlent de ces prochaines élections, on va lui donner le bénéfice du doute, Pascal. On va se dire qu'il parle des élections, des fameuses élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre prochain. On va lui donner le bénéfice du doute parce que ça va nous faire du bien pendant quelques semaines de arrêter de penser qu'il veut se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais oui, je pense qu'il veut se garder des alliés. On va se garder des alliances. Et là, on va entendre parler de la question du Groenland. Parce que dans les dernières minutes, ce qui est ressorti, c'est que les Européens qui étaient réunis justement pour parler de l'Ukraine, après avoir annoncé cette force de maintien de la paix potentielle, ont également fait une déclaration commune sur la question du Groenland. Déclaration qui a été appuyée par le Canada, indiquant que le Groenland, le Danemark et le Groenland étaient les seuls à devoir avoir le droit de déterminer leur futur. Et on sait que Donald Trump a parlé de ce besoin pour les États-Unis. Il n'en parle pas comme une volonté, il en parle comme un besoin. Il dit, les États-Unis, on a besoin d'avoir le contrôle du Groenland parce que le Danemark ne sera pas capable de le protéger adéquatement. Donc, comment est-ce que ça va finir tout ça? C'est toujours ça qui est compliqué avec Donald Trump en ce moment. C'est que d'un côté, on voit des avancées en termes de paix avec l'Ukraine. Mais de l'autre côté, on voit que la chicane s'amplifie sur la question du Groenland. D'un côté, on voit au Venezuela qui sort Maduro, mais de l'autre côté, on voit qu'il cherche à négocier avec la présidente actuelle et que la démocratie l'importe pas. C'est là que ça se complique.
Puis c'est particulier, si je peux m'ajouter là une petite portion dans ma question ou dans mon analyse avec vous, les gars, c'est que sur les deux fronts, par exemple, il y a une certaine attaque, sans être le bon mot, envers la Russie. Dans ce cas-ci, on se range du côté de l'Ukraine, chose qu'on n'aurait pas nécessairement préétablie il y a quelques mois. Puis du côté du Venezuela, ben quand même, Venezuela qui est défendu par la Russie aussi. On est-tu en train de voir un revers dans ce qu'on croyait être un rapprochement entre ses ennemis à travers le début de son premier mandat, Donald Trump? Il y avait quand même des bonnes discussions avec la Chine, avec la Russie. On se demandait s'il était en train de s'allier avec le diable, tiens.
Oui, je pense qu'il y a un certain recul là-dessus, sur cette espèce d'amitié. Du moins, il y a un peu de froid dans la relation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Parce que c'est sûr que là, on est dans des intérêts hyper opposés. L'Ukraine, là-dessus, Donald Trump et Vladimir Poutine ne s'entendent pas clairement avec ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Il y a des différences qui vont s'installer. Avec le Venezuela, c'est majeur, les différences qui s'installent. Parce que le Venezuela, pour les Russes et pour les Chinois, c'est une plaque tournante importante. Ils vont chercher du pétrole là. C'est un des pétroles qui n'est pas justement transigé en dollars US. Hein. Vous savez, une des choses qu'on discute peu sur la question du Venezuela, pas encore, c'est que dans le monde, une des choses qui fait que le dollar américain est aussi fort, c'est que toutes les transactions de pétrole à une époque se faisaient en dollars américains. C'est une entente avec l'Arabie Saoudite qui était le plus gros producteur. Le Venezuela, d'ailleurs, à l'époque, respectait cette entente-là. Et là, petit à petit, il y a des pays qui ont commencé à transiger dans d'autres monnaies. Mais vu que le pétrole se paye en dollars américains, ça fait que tout le monde a besoin de dollars américains. Et si tu fais avec d'autres monnaies, ben, il y a moins de monde qui en ont besoin. Et là, ça diminue la valeur. Donc, il y a toute cette question-là aussi qui fait que, malgré le fait qu'il y a une amitié de longue date, hein, entre la Russie puis Donald Trump, ça date des années 90, tout ça. Malgré tout ça, ben, Donald Trump, il voit que ses intérêts sont dans le fait de justement peut-être aller à l'encontre de la Russie sur certaines choses. Il y a une chose qu'il faut se rappeler. Depuis le début du mandat de Donald Trump, on le rappelle, Donald Trump ne travaille pas pour le Canada, ne travaille pas pour l'Europe, ne travaille pas pour la Russie ou la
Travaille
Chine.
pour les
Donald
États-Unis.
Trump travaille pour les États-Unis et pour lui. Donald Trump travaille pour faire des États-Unis ce qu'il pense, comment il pense faire des États-Unis la grande puissance mondiale, sachant que c'est vrai que les États-Unis, dans les dernières années, avaient perdu du terrain face à la Russie puis à la Chine. Alors, cet ego américain est plus important que ses relations d'amitié avec la Russie. Et soyons honnêtes, en ce moment, ça ne nous dessert pas nécessairement que Donald Trump et les Russes ne soient pas nécessairement d'accord sur tout.
En effet. Victor, concernant le plan de paix en Ukraine, je reviens plus sur le terrain. On le sait, les Russes veulent négocier pour avoir des parties de terrain qui appartenaient à l'Ukraine, notamment le Donbass, si je ne me trompe pas, et la Crimée, là, qui a été annexée en 2014. Est-ce que ça serait une façon pour les Européens et les Américains de mettre de l'eau dans le vin? Et je m'explique, c'est-à-dire, regarde, on va céder un peu de territoire aux Russes, mais on assure qu'on va protéger ton territoire restant. C'est une façon de convaincre Vladimir Zelensky, le président ukrainien?
Je pense que c'est une façon, oui, de convaincre Volodymyr Zelensky. C'est aussi peut-être une façon de convaincre Vladimir Poutine qu'à un moment donné, il a gagné ce qu'il avait à gagner. Hein, parce qu'il y a une frontière naturelle qui est en train de s'installer. Puis quand vous regardez, j'invite les gens qui s'intéressent à ce dossier-là à aller regarder naturellement la carte aussi de l'Ukraine. Hein, parce qu'il y a des fois, il y a des frontières naturelles qui s'installent. Puis lorsqu'on regarde la région du Donbass, la région de la Crimée, ce sont des régions qui étaient plus proches de la Russie. Il y a peut-être un certain naturel aussi à ce que ces régions-là retombent un peu sous le régime russe,
Beaucoup
aussi
de
en termes
gens
de
qui
composition
parlaient
de population.
russe, justement,
Ben,
beaucoup de
c'est
gens qui
ça.
parlaient russe dans ces régions-là.
Exactement. Donc, c'est là où est-ce que peut-être que cette région-là aussi était moins européenne dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Alors, je pense que ultimement, il va falloir reconnaître une chose. L'Ukraine a perdu cette guerre-là d'une certaine façon dans ces régions-là, dans ces territoires-là, mais a réussi à maintenir les Russes loin des autres territoires. Alors, lorsqu'on va conclure cette guerre-là, lorsqu'on va arriver à la fin de cette guerre, c'est un peu ça qui va arriver, c'est qu'on va faire les comptes, puis on va se dire, OK, quel territoire on a gagné, quel territoire on a perdu, puis on va négocier les nouvelles frontières. Parce que c'est ça qui arrive au bout d'une guerre. Hein. Au bout d'une guerre, on finit par se dire, ben, il y a un gagnant, puis un perdant. C'est rare qu'il y ait juste des gagnants, en réalité, je ne me souviens pas que c'est arrivé, juste des gagnants. Puis c'est rare qu'il y ait juste des perdants aussi. Maintenant, ici, il faudra voir dans cette négociation-là, où la ligne sera tracée. Et c'est là où l'amitié de Donald Trump avec les Russes, cette amitié naturelle, peut jouer un rôle. Parce que ça prend quelqu'un pour discuter dans ce temps-là. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on regarde toutes les déclarations, il y a une chose qui n'a pas changé. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky risquent d'avoir de la misère à se parler.
C'est
Ces
clair.
deux hommes-là ont pris ça très personnel, avec raison. Hein. Je ne les accuse pas de prendre ça personnel. Mais c'est une guerre qui, au lieu d'être une guerre entre deux pays, est une guerre entre deux leaders également. Alors, c'est là où est-ce que ça prend des gens pour être capable de s'asseoir au milieu puis de discuter. Puis peut-être que Donald Trump peut jouer ce rôle-là.
Je reviens ici au Québec. Victor, on en parlait hier de la course à la chefferie au niveau du Parti libéral du Québec. C'est fait. Charles Milliard, avec une belle vidéo, nous a annoncé qu'il se lançait dans la course à la chefferie. Mais là, il y a un nom qu'on n'avait pas parlé hier, Mario Roy, qui traîne des dettes de la dernière course à la chefferie, qui a eu 0,8 % qui voudrait se présenter à nouveau. C'est quoi les aspirations de Mario Roy? Pourquoi fait-il ceci? S'il le fait, évidemment.
J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en bout de ligne, parce que là, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que Mario Roy veut se présenter, mais la réalité, c'est que imaginez la catastrophe en termes de perception pour les libéraux s'ils passent les 2 prochains mois à faire une course entre Charles Millard et Mario Roy. C'est comme si on invitait sur une patinoire Sidney Crosby jouer au hockey avec quelqu'un des ligues mineures. C'est absolument hallucinant. Puis ça, là-dessus, je ne veux pas être méchant avec Mario Roy, parce que c'est un super bon gars. C'est un gars qui a du cœur. C'est un gars qui représente une voix de région. Je le comprends, ça. Puis je trouve ça bien qu'il y ait des gens comme ça qui se présentent. Mais là, soyons sérieux un peu, là.
Il surestime ou tu penses qu'il tient tellement à être la voix des agriculteurs qu'il lâche pas le morceau?
Non, je comprends, mais on n'est plus dans cette game-là, justement. À un moment donné, si tu veux être chef du Parti libéral du Québec, il faut que tu te poses la question de qu'est-ce qui est mieux pour le Parti libéral du Québec. Puis pour le Parti libéral du Québec, la candidature de Mario Roy, ce n'est pas un plus. C'est bon pour Mario Roy, c'est bon pour ce qu'il a à dire. Il y a des gens qui me disent c'est la voix des régions. Je veux dire que c'est le murmure des régions, peut-être, oui. Et je lui souhaite une belle carrière. Puis je pense que ce serait un super bon candidat pour le Parti libéral en Beauce. Mais à un moment donné, Monsieur Roy, il faut venir à la réalité que le Parti libéral du Québec n'a pas de temps à perdre. Moi, pour moi, c'est assez simple. Entre
Sais-tu
nous,
quoi?
là, puis moi, mon idée est faite.
Je trouve même pas. C'est sûr que là, on rit un peu parce que c'est comique dans la situation qui ne l'est pas. Donc, on rigeonne un peu parce qu'on se dit là, faut que, en tant que gens qui adorent la politique, si on veut un parti libéral qui se doit ou qui est dû à son électorat, ben faut faire avancer les choses, faut que les choses bougent et assez vraiment pas répéter les mêmes erreurs. Donc, ton analyse politique, elle est importante là-dedans. Puis je sais qu'on veut pas rire de M. Roy parce que y a pas à rire, mais la situation est loufoque dans le sens où, à un moment donné, tout le monde est au courant qu'on doit embrayer en cinquième vitesse pour le Parti libéral. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la couenne, qui a l'étoffe ou la notoriété de se présenter. Et on peut aussi ajouter le fait qu'on est certain de ce qu'on dit parce qu'à la dernière course à la chefferie, ça n'a pas pollué.
0,8 %.
Ah ben. Ah ben c'est de l'argent aussi de dépenser, c'est des moyens de dépenser par le parti. Moi, mon idée est faite. C'est assez simple pour moi ce qui va se passer. Il y a deux possibilités. La réalité, c'est qu'en ce moment, il y a deux noms autres qui circulent. Mario Roy semblerait va annoncer la semaine prochaine qu'il veut y aller. On verra ce qu'il a fait avec ses dettes de campagne, parce qu'il y avait déjà, il y avait quand même 35 000 $ de dettes. Puis honnêtement, je respecte et j'admire le fait que ce gars-là est prêt à dépenser sur son avenir politique. Bravo, là, et puis va chercher de l'argent, puis va chercher du financement. Mais j'espère que son engagement ne lui fera pas trop mal en termes de crédibilité, en termes financiers également. Il y a deux autres noms qui circulent. Il y a M. Desjardins, l'ancien président de Via Rail, qui a été chez Siemens également, un candidat qui semble avoir un profil super intéressant, mais qui est plus inconnu que Charles Millard. Et les libéraux ont besoin d'une certaine notoriété. Donc, pour moi, c'est un candidat qui n'est pas suffisant pour faire une course intéressante. Celui qui vient changer la donne, c'est Guy Cormier. Guy Cormier n'a pas encore dit non. Tout semble dire qu'il va dire non, mais tant qu'il n'a pas dit non, il reste un minimum d'espoir. Si Guy Cormier se lance dans la course, à ce moment-là, oui, la course est intéressante. Et je dirais même que je dirais plus loin, si Guy Cormier se lance dans la course, moi, si j'étais Charles Millard, peut-être même que je penserais à me rallier.
C'est ce que tu me disais
si
hier.
Si Guy Cormier n'est pas dans la course, les libéraux vont devoir viser un couronnement. Et il faut que cette semaine, les gens convainquent Mario Roy que la meilleure chose pour le Parti libéral du Québec, s'il n'y a pas d'autres candidats dans la course, c'est que le Parti libéral du Québec fasse un couronnement, que Charles Millard soit couronné dans un événement très beau au mois de mars, et que d'ici là, on concentre les énergies à faire une plateforme, à faire connaître M. Millard, et à s'assurer que le Parti libéral a une voix et que le Parti libéral répare ses affaires. Rappelons qu'il va y avoir un rapport d'une enquête indépendante d'ici la fin du mois de janvier. Mm-hmm. Parce qu'un débat entre Charles Millard et Mario Roy, c'est pas nécessairement ça qui va aider la crédibilité du Parti libéral pour que les Québécois recommencent à voir ce parti-là comme une option au gouvernement du Québec. Et ça, c'est pas contre Mario Roy, c'est juste une question de calcul. Je comprends qu'on va me dire, ah, mais tu sais, la démocratie, c'est de laisser les gens se présenter. Je le comprends. Mais à un moment donné, il faut être pragmatique, puis à un moment donné, il faut regarder les résultats. Puis je suis pas sûr qu'une course entre Mario Roy et Charles Millard, ce soit bon pour le PLQ, point final.
Non, en effet, t'as entièrement raison. Surtout que le PLQ s'est bien réorganisé sur le terrain en misant sur une recette gagnante qui a fonctionné, c'est-à-dire Marc Tanguay comme chef par intérim, Monsef Deragy comme leader parlementaire. Les deux ont l'étoffe, justement, d'assumer les différents rapports d'enquête qui vont arriver et de faire en sorte que les libéraux tentent d'arriver quand même avec un élan aux prochaines élections.
Au mois de mars, il va rester une option. Est-ce que les 6 mois de Pablo Rodriguez vont être un cauchemar dont les libéraux vont s'être réveillés ou est-ce que les 6 mois de Pablo Rodriguez vont être le début de la fin pour le Parti libéral? Parce qu'il faut quand même se rappeler que si les libéraux perdent cette élection-ci, ils vont perdre une troisième élection de suite.
Bon, ça, c'est vrai.
Et là, je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que les libéraux ont perdu 3 élections de suite? Alors,
ben, ça doit être moi, dans jamais mes livres arrivé, selon moi.
Et c'est à peu près ce que je pense pour aussi. Et là, si on regarde, c'est les 3 élections de suite, mais c'est aussi le nombre de chefs qu'on a vu passer. Et moi, je vous, très sincèrement, si les libéraux perdent la prochaine élection, oui, tout le monde va parler d'un référendum avec le PQ, puis ça, c'est une question hyper importante, là, cette question-là du PQ puis d'un référendum potentiel. Mais les libéraux vont avoir tout un défi s'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus capables de gagner les élections, malgré le fait qu'ils vont avoir empilé les chefs pendant les dernières années.
Parlant des libéraux, Victor, je vais absolument te parler de leur ancien chef, de notre ancien premier ministre, Jean Charest, qui a mentionné dans les médias et sur ses différents fils de médias sociaux que le Canada, justement, devait craindre ce qui arrivait à l'heure actuelle avec Donald Trump et ses actions au Venezuela. Est-ce que, de un, Jean Charest, sa pensée est adéquate? Est-ce qu'il en met trop ou est-ce que c'est vraiment, on doit vraiment craindre ce qui arrive avec Donald Trump? Et de deux, est-ce qu'il est en train de se repositionner pour les conservateurs si Pierre Poilievre n'a pas un bon vote de confiance?
Non, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que pour Jean Charest, on n'a pas dit que c'était fini. J'ai beaucoup de respect pour la lecture de Jean Charest, puis je le dis de façon très ouverte hein, pour que les gens le sachent. Moi, j'ai travaillé dans un gouvernement libéral de 2003 à 2007, qui était un gouvernement de Jean Charest. J'ai vécu la machine de l'intérieur, j'ai connu M. Charest comme premier ministre, et comme tous les gens qui ont travaillé au gouvernement à cette époque-là, M. Charest était très aimé à l'interne, et j'ai un énorme respect pour son opinion et pour ce qu'il voit de la politique. Cependant, dans ce cas-ci, je pense que il lève un drapeau rouge un peu rapidement. Ça reste que, et c'est là où est-ce que je pense qu'on a une différence qui doit s'installer. L'arrivée de Donald Trump inquiète tout le monde. Alors, est-ce qu'on est inquiet là-dessus? Oui, je pense qu'il faut s'inquiéter. Moi, je ne suis pas plus inquiet depuis l'invasion du Venezuela que je l'étais avant. Je pense que maintenant, ce qu'il faut faire en 2026, j'espère que ce sera notre résolution et celle de nos politiciens, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à Donald Trump. La réalité, c'est que Donald Trump est un président élu par les Américains et que les Américains vont peut-être même élire quelqu'un de aussi trumpiste dans l'avenir. On doit s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Lorsqu'on dit lit les documents sur la sécurité nationale des Américains, un document qu'ils ont sorti récemment, le document est très clair sur le fait que les Américains considèrent que pour la sécurité des États-Unis, il faut qu'ils aient des alliés dans la majorité des pays autour d'eux, soit dans l'hémisphère des Amériques. Pour eux, les gouvernements de ses voisins doivent être des alliés. Ce que ça nous dit également, c'est que le gouvernement canadien sera protégé aussi longtemps qu'il sera un allié. On est dans un Canada démocratique, on a une alliance naturelle avec les États-Unis. Financièrement, on ne s'est pas entendu dans la dernière année, c'est vrai, mais en même temps, je ne suis pas sûr que Donald Trump a le goût de se créer des ennemis partout. Il l'a dit, il veut gagner ses élections de mi-mandat également. Et le Canada est un pays très apprécié au sud de la frontière. Notre démocratie, elle est forte, il faut qu'on fasse confiance à cette démocratie-là. Il faudra toujours qu'on soit attentif avec Donald Trump. Je pense que M. Charest va un peu loin. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut amener dans la discussion et que les partis vont amener d'ici la prochaine élection, c'est qu'il faut rester attentif et qu'il y a deux éléments qui pourraient venir, affaiblir le Canada. Et ce sont des référendums au Québec et en Alberta. La réalité, c'est que si les Canadiens eux-mêmes remettent en question l'existence même de leur pays, l'existence même de leurs frontières, on ne devra pas se surprendre d'entendre Donald Trump embarquer dans cette remise en question. Parce que si les Canadiens disent « Nous, on se questionne sur nos frontières au Québec et en Alberta », attendez-vous à ce que Donald Trump dise « Hey, guys, moi aussi, je me questionne sur vos frontières. » Alors, voulez-vous en parler, parlons de frontières. Moi, j'en ai une à vous parler. Puis là, on va recommencer à parler du 51e État et peut-être même du 51, 52, 53 et 54 parce que peut-être qu'on va vouloir diviser les États. On va peut-être montrer à Donald Trump qu'on est beaucoup moins unis qu'il le pense au niveau de la frontière canadienne. Ça va falloir l'amener, ça va faire partie de la conversation. Et du côté du Parti québécois, il faudra se préparer à répondre à ça. Parce qu'on ne peut pas penser que ça ne fait pas partie de la conversation. Puis on ne peut pas jeter du revers de la main en disant « Non, non, c'est avoir peur de Donald Trump. » Non, c'est être réaliste sur le fait que les frontières, quand elles sont remises en question, ben, tout le monde peut embarquer dans le débat.
Mais je me demande quand même comment on va s'en sortir à long terme parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris le bon train au moment où le train passait, dans le sens où je pense qu'on n'est même pas monté dedans. Au niveau économique, on a oublié à quel point on devait se constituer en unicité aussi au Canada. Tu le dis, on est moins en collaboration entre les provinces que l'on pouvait le penser, surtout le démontrer à l'international. Tu sais, je veux pas être défaitiste, c'est pas mon genre. Je veux qu'on trouve des solutions, mais je suis pas sûre que les solutions sont aussi simples dans le contexte économique. En plus, que l'on est actuellement. On peut parler de ces enjeux internationaux-là. Ils sont hyper importants. Ils arrivent dans notre cour. Mais demain matin, il y a encore du monde qui va avoir de la misère à manger dans la ville de Québec. Puis ça, les gouvernements ont cette pression économique-là sur les épaules chaque jour. Ça risque d'être difficile, non, de faire changer les choses rapidement. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Un Canada fort, pour vrai?
Moi, je pense que oui. J'y crois encore. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que on a quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement. C'est des ressources naturelles extrêmement fortes, puis c'est une démocratie très forte aussi. Alors ça, là-dessus, il faut s'asseoir sur nos acquis. Mais il y a une chose qui me préoccupe dans les dernières années, c'est qu'on dirait qu'on n'est pas capable de rien exploiter au Canada. On n'est plus capable de rien avancer. Ouais. On n'est plus capable de faire des projets parce qu'il faut que sur tous les projets, on soit unanime. Il faut que tout le monde soit d'accord sur tout.
Oui, il y a toujours des lobbies qui sont contre.
On a
souvent
des
négociations
de tout
avec
tout.
Les Premières Nations. Oui, en effet.
La population.
En effet.
C'est compliqué. C'est compliqué de développer au Canada. Et c'est compliqué parce qu'on est très petit aussi. Tu sais, il y a des conversations qu'il va falloir qu'on ait le courage d'avoir et qu'on sorte un peu du spectre habituel. Je vais vous donner un exemple. On est 40 millions d'habitants sur le deuxième plus grand territoire au monde. Mm-hmm. Les Américains sont 400 millions. Les Mexicains sont 200 millions. Comment ça se fait qu'on est aussi peu sur ce territoire-là? Comment est-ce qu'on va faire pour juste rester aussi peu ces territoires-là? Est-ce que ça va pouvoir rester ça, sachant que la planète est passée de 6 milliards en 9 milliards en très peu de temps? En donné, la planète, elle grossit pas. Le nombre de gens, il augmente, puis ben, les gens, ils bougent. Pourquoi? Parce qu'il y a des places, il y a des endroits où il y a de l'espace, il y a des endroits où il y en a moins. Alors, ça, il va falloir se poser cette question-là. Comment on fait pour développer nos ressources naturelles? On a plein de minéraux critiques. On a du pétrole en Alberta. On a du gaz naturel. On a ce dont la planète a besoin. On a de l'eau et de l'hydroélectricité. Mais comment est-ce qu'on fait pour le développer à long terme? Est-ce qu'on est capable de le développer ou est-ce qu'on sera toujours bloqué selon dans nos discussions et notre recherche d'unanimité? Ça, là-dessus, c'est vraiment là-dessus que j'espère que la prochaine élection au Québec va se faire, que les élections vont se faire dans d'autres provinces, puis que le fédéral va embarquer. Si on a cette conversation-là, je pense, moi, Pascal, je pense qu'on est encore capable de redevenir un grand pays économiquement parce qu'on a les ressources. Mais si on n'est pas capable de faire ça, ben non seulement on va se être petit économiquement, mais on va aussi être exposé aux craintes de Jean Charest. Parce qu'à un moment donné, les Américains vont dire, comme il le dit si bien Donald Trump, puis il n'y a pas nécessairement tort, quitte à défendre ce territoire-là aussi bien que j'en prenne les ressources. Parce que les autres ne sont pas capables de le faire.
Puis en plus, il sent qu'on est redevable envers lui. L'affaire est qu'on est dans des regroupements politiques très électoralistes hein, qui pensent beaucoup plus à se faire réélire avec des bonbons aux citoyens que d'avoir une vision qui n'est pas très borésile. Tu sais, les borésies, c'est beau maintenant, donc ils n'en mettent pas pour le futur, on dirait, parce que sur le coup, on doit séduire, mais ça, c'est un peu déplorable.
Les élections nous amèneront peut-être à piétiner là. Vous savez quoi, moi, j'ai
Oui, j'ai
envie
besoin de toi
d'entendre
aujourd'hui.
une année électorale. Tu sais quoi, faisons une année électorale où est-ce que le PQ va sûrement nous amener des idées pour avoir développé un pays avec une économie très forte, un référendum suivi d'eux. Les libéraux vont avoir les leurs, la CAQ va arriver avec leurs idées. Hey, parlons donc d'économie cette année, parce que vous le voyez, hein, nos discussions sont toutes autour de l'économie, parce que l'économie, c'est aussi la capacité de mettre de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils mettent de la nourriture devant leurs assiettes. C'est ça aussi qu'on veut développer. Créer de la richesse, c'est mieux la partager. C'est comme ça qu'il faut voir la prochaine année.
T'as entièrement raison. Victor Henriquez, on termine le tout parce que on a une conversation tout à l'heure avec Éric Gingras, président de la CSQ, qui a fait justement sa conférence de presse de début d'année. Puis je veux revenir sur les fameux contre-pouvoirs avec lui, les contre-pouvoirs syndicaux. Mais là, je regardais ça, le massif. Moi, je me dis toujours, puis j'avais dit la même chose cet été avec la grève au RTC au niveau de l'entretien, je me dis, quand t'es rendu à une étape de faire la grève, c'est parce que ça fait plus d'un an que tu négocies ta nouvelle convention collective. Tu es dans un impasse, tu as fait 75 rencontres, il y a eu un médiateur qui était là, il n'y a rien qui fonctionne, tu dis moyen de pression extrême, la grève. Là, tu m'as allumé là-dessus tout à l'heure quand tu m'écris en disant « Hey Jeff, savais-tu que le massif, la convention collective, a été échue le 1er janvier, puis sont partis en grêve le 2 janvier? » Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas un contre-pouvoir logique, là.
Et puis, il y a la grève illimitée.
Ben, c'est
Ça,
ça,
c'est
en
l'autre
plus.
chose.
Même pas une grève ciblée de 2-3 jours, là.
On n'est plus dans le contre-pouvoir. On est dans le « j'ai pas de stratégie, donc je m'en vais en grève illimitée d'un coup. » Puis ça, là-dessus, tu sais, je crois au droit à grève, là. Je crois au droit des syndicats à
Moi aussi.
négocier, des bonnes conditions de travail, c'est important. Puis tu sais, on parlait de la classe moyenne, puis de mettre de la nourriture dans l'assiette des gens. Je crois à ça. Mais je suis pas sûr que ça aide qui que ce soit de fermer le massif pendant la période des fêtes, dans les 5 jours qui restaient, et de mettre en péril la semaine de relâche, qui sont les deux périodes les plus payantes de cette station de ski-là. Alors, à un moment donné, on peut-tu avoir des syndicats qui ont des stratégies qui vont ailleurs qu'on fait la grève illimitée? Tiens, moi, je suis à Montréal, j'ai vécu la grève de la STM. On nous a mis un mois de grève illimité en plein mois de novembre. Ah, c'est pas grave, les gens peuvent pas aller travailler, c'est pas grave. Ah, les étudiants peuvent pas aller à l'école, c'est pas
Pas
grave.
grave, mais non, ouais. C'est
Là,
très grave
baisse
des gens qui rataient leur rendez-vous médicaux. Et là, je sais où tu t'en vas, Baie-Saint-Paul, au niveau économique, c'est là la grosse période, là. Cette région-là ne peut pas tomber parce qu'il y a des syndiqués qui ont décidé de faire une grève illimitée.
Ben, c'est exactement ça. Puis nos régions sont essentielles. Puis Baie-Saint-Paul a besoin de l'activité du massif pour passer à travers ces périodes, justement, les périodes les plus payantes de l'année. Alors, espérons que le syndicat entende raison. Là, il semblerait qu'il y a des discussions. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir des stratégies? Puis dans la stratégie, des grèves d'une journée, des grèves rotatives, allons-y avec du crescendo. Là, on envoie toute la sauce d'un coup, puis finalement, on met un peu le bordel. Je ne suis pas sûr que ça sert les gens du massif non plus. Pas sûr que ça sert les employés. Puis surtout pas sûr que les employés sont tous d'accord avec une stratégie comme celle-là. Même s'ils ont voté à 95% pour, je serais bien curieux d'avoir leur opinion à l'extérieur d'une salle syndicale. Des fois, la pression est un peu forte. Puis là, je ne veux pas dire que les syndicats n'ont pas travaillé comme il faut. Je dis juste que moi, je ne le comprends pas. Puis vous savez quoi? On ne me l'explique pas. Alors, à un moment donné, dans les communications, moi, j'étais un pro de communication, j'en ai fait des communications avec des syndicats, puis je leur disais tout le temps, si le public ne comprend pas pourquoi vous êtes en grève, n'espérez pas que le public va vous appuyer.
En effet, tu as entièrement raison. Victor, on a eu une très bonne idée par texto, c'est-à-dire, on t'a entendu défendre le Canada sur les ondes de Boulevard 102.1. On sait qu'Antonine Iacarini défend fortement le Québec. On va organiser un petit débat fait Fédéraliste contre souverainiste, Pascal CV. Antonine Iaccarini, Victor Henriquez. On va organiser ça, là, tu sais, à un moment donné, quand le livre bleu sera un peu plus avancé. Qu'est-ce que t'en penses?
Il semble à rire, mais il te pointe du doigt, Victor.
God. Vous savez, ben, Antonine et moi, on est amis depuis longtemps, puis une des forces de notre amitié, c'est de ne jamais avoir fait ce débat-là, justement.
Oh, alors, je sens qu'on est sur un terrain glissant, Pascal CV. tu le sens-tu, toi aussi?
Oui, j'aimerais savoir, Antonine, répondre à ça.
C'est ça, exactement. Non, j'ai trouvé ça très drôle, l'auditeur ou l'auditrice qui nous a écrit
ça. Merci pour l'idée.
Ouais, puis c'est la preuve...
Merci, mais non, merci.
C'est ça. C'est la preuve qu'à Boulevard 102.1, ben, tous les opinions politiques sont les bienvenues, puis on est super contents de t'avoir avec nous. Victor Henriquez, ce fut encore un caucus exceptionnel. Merci pour la qualité de tes informations et de tes analyses.
Merci beaucoup. À demain. Cool.
À demain, salut. Victor. Salut. C'est Victor Henriquez en remplacement d'Antonine Iaccarini. J'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai dit, c'est sûr, je l'amène en onde. Le clin d'œil de l'auditeur ou l'auditrice qui nous a envoyé le tout par texto. Vous pouvez toujours réagir au 418-971-102. On fait une courte pause et par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité parce qu'il s'embrasse des affaires et pas juste sur la scène internationale. Il s'embrasse ici localement. Et je vous le dis tout de suite, vers 13h, on va revenir sur la situation États-Unis-Venezuela avec Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Puis Pascal CV, t'as été vraiment hot parce que tu m'as dit, hey Jeff, ça fait 5 ans l'assaut du Capitole.
Oui, on a un triste anniversaire, un sombre anniversaire en fait, assaut du Capitole du côté des États-Unis.
Exactement.
Lors du premier mandat de Donald Trump.
C'est ça, lorsque son premier mandat était terminé, qu'il criait à l'élection truquée de Joe Biden. Donc, je pense qu'il y a des liens à faire avec tout ça. Je suis certain qu'un historien comme Luc Laliberté va être capable de nous démêler le tout entre l'attitude de Trump d'aujourd'hui et l'assaut du Capitole d'il y a 5 ans. Restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.